efter timmarna har gått har blivit allt mer och mer aggressiv och allt mer och mer psykiskt labil.
Comme vous le voyez, la place est envahie de voitures de police qui ont bloqué l'accès, car il pourrait y avoir des coups de feu à tout moment. Tout a commencé ce matin à 10h lorsqu'un homme est entré dans la banque.
Qu'est-ce que je veux ? 3 millions en couronne d'un autre pays.
Cela fait maintenant 36 heures que le jeune bandit armé est retranché dans une banque du centre de la ville avec 4 otages. Grâce à des pilules stimulantes, il réussit à ne pas dormir. Hier, il avait obligé le gouvernement suédois à libérer un autre bandit, condamné lui à la prison à vie pour des attaques à main armée. Ce dernier est venu rejoindre son camarade dans la banque, ce qui ne facilitera certainement pas la tâche des policiers qui pensaient avoir le jeune Robert Hansen à l'usure.
Le syndrome de Stockholm, la fin d'un mythe, Michel Pomared, Félix Levacher. Première partie, otages et ravisseurs contre la police.
Je me suis toujours intéressé à la psychologie et notamment aux sectes.
Olivier Pighetti, réalisateur du documentaire « Quand Stockholm est devenu un syndrome ».
Ça m'a toujours fasciné que des personnes puissent embrasser les théories de leur bourreau et en faire une sorte d'acte d'amour. Donc je me suis intéressé à l'origine, ce que pouvait être le syndrome de Stockholm. Je suis reparti là-bas pour essayer de retrouver les protagonistes.
Combien il y avait d'otages ?
10 personnes.
Une dizaine peut-être. J'ai déboulé, j'ai sorti mon flingue, tiré dans le plafond.
Clark Olofsson.
Et que la fête commence.
J'ai eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec eux parce qu'ils ne voulaient plus témoigner. Il y a déjà eu assez longtemps des émissions là-dessus, notamment au moment où ils ont été libérés, ils ont été assaillis par la presse. Et la plupart ne souhaitaient plus discuter là-dessus, sauf le protagoniste principal, hein, donc Clark Olofsson, qui lui est d'une sorte de type avec beaucoup, beaucoup de charisme, très intelligent et très fier de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, même s'il a passé la moitié de sa vie en prison.
Alltså, jag hade fan ingen aning om vad jag gick in i. Jag kunde lika gärna varit på väg rakt in i en dödsfälla.
En urusel idé.
Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'allais peut-être y laisser ma peau sans le savoir.
C'est de la merde cette idée.
Mais il y avait une chose dont j'étais sûr. La vie n'est qu'une suite de déceptions. Alors il faut être courageux et se démerder.
Clark ne savait pas du tout qu'il allait être appelé, il n'était pas du tout mêlé à ce projet, mais du tout, et donc il était extrêmement surpris parce qu'il avait encore de nombreuses peines de prison, années de prison à faire, et du coup c'était une aubaine absolument extraordinaire pour lui. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique qui tenait, entre guillemets, sa prison. C'était un peu le roi de l'incarcération, il décidait... la vie des uns et des autres, avec à la fois beaucoup de bagou, beaucoup d'intelligence aussi, parce qu'il est vraiment brillant, mais aussi c'est quelqu'un d'extrêmement sournois. Ce qu'il y a de drôle, c'est que la moitié des policiers pensaient que j'étais de leur côté, et l'autre moitié savait que j'étais le méchant. Mais les premiers ont rapporté la mise. Ils m'ont donc laissé faire.
Lui arrive un peu comme un sauveur. Il vient calmer le jeu. Il a beaucoup d'ascendance sur Yanné, qu'il connaît d'une incarcération précédente.
La psychologue clinicienne Evelyn Joss.
Il va calmer les otages, 3 femmes et Sven.
Il y a la vie de 4 Suédois en jeu, et puis aussi, il y a la tradition suédoise, les traditions de ce pays qui sont bafouées, les Suédois sont choqués.
Il va aussi calmer la police, c'est aussi lui qui va temporiser. Et donc, il est effectivement vu comme le sauveur. Donc, il y a le méchant qui est Olsson, le gentil qui est Olofsson. Et donc, ce contraste aussi va jouer en faveur d'Olofsson. Comme il arrive après le méchant, en fait, la perception que les otages ont à ce moment-là est certainement qu'il est plus gentil qu'il ne l'est en réalité.
Toute la Suède est tenue en haleine par ce suspense dramatique. Le centre de Stockholm ressemble à un camp retranché. Le dispositif policier est imposant face à la vitrine de cette banque vénérable. Un cordon tient les Suédois à distance.
Ceci dit, il faut reconnaître que Olofsson est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction. Il a d'ailleurs eu beaucoup de femmes. Et il n'a jamais menacé les otages. C'est-à-dire qu'il ne représente pas une menace pour les femmes. Or, Olofsson, lui, est une menace. Il menace de tuer les otages et plus tard aussi, il va mettre les otages en danger.
Le suspense continue, ainsi que les discussions entre la police et le bandit. Celui-ci avait fixé un ultimatum, menaçant de faire sauter la banque si l'on ne répondait pas à ses exigences. L'heure est passée, l'attente continue. Détournement d'avion, le Nord... Ce soir, une explosion s'est produite à l'intérieur de la banque. Peut-être ont-ils voulu faire sauter un coffre ou une chambre forte. On pense qu'il n'y a pas de gros dégâts.
C'était une terreur sans nom. C'est le seul mot qui me vient. Une terreur sans nom.
Christine Henmark.
Plus de réaction, plus de...
Il n'y avait plus aucune réalité à laquelle me raccrocher. Le vide. Ça ne pouvait pas être vrai. J'étais pétrifiée, assise, spectatrice, attachée, immobile. Alors il faut s'imaginer que c'est une jeune femme de la campagne, elle a 23 ans. Elle se retrouve devant Olofsson qui la menace de la tuer, qui agite une arme devant elle. Et en plus, Christine voit que son comportement est assez désordonné, donc elle est persuadée qu'il est sous substance. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que une partie tout à fait inconsciente de son esprit se dit qu'elle ne va pas survivre, qu'elle va mourir. Réfléchir prend trop de temps quand nous sommes dans une situation de danger, ce qui fait qu'on se déconnecte de la partie qui réfléchit. C'est ce qu'on appelle le néocortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qu'on a à l'avant, derrière le front. Et c'est notre système nerveux autonome qui, lui, est chargé de notre survie, qui prend les choses en main, pour fuir ou pour combattre. Et quand on ne peut ni fuir ni combattre, à ce moment-là, eh bien, on va tirer le frein à main. On va retomber dans le système nerveux autonome sur ce qui va, en fait, nous déconnecter. On va se dissocier. Et c'est ce qui lui arrive.
Ça ne pouvait pas être vrai. J'étais pétrifiée. Assise, spectatrice, attachée, immobile.
Je ne sais plus si j'ai pensé que j'allais mourir. L'idée de mourir, c'est venu plus tard. C'était tellement irréel. Je n'avais aucune capacité de raisonnement, tant c'était hors de portée. C'est tellement vrai que dans son livre, elle raconte qu'elle a fait une expérience de mort imminente. Elle ne le cite pas comme ça, mais les gens qui font des expériences de mort imminente, comme les gens qui font des arrêts cardiaques ou qui sont en face d'une grande frayeur où ils pensent qu'ils vont mourir, voient parfois leur vie défiler. Et elle, à ce moment-là, raconte qu'elle a vu son père pleurer la mort de son petit frère. Elle a revu ses années de liberté au lycée, elle a revu tout l'impact de la religion dans sa vie, et elle a vu apparaître son grand-père. Donc elle est complètement déconnectée de la réalité, elle est là, mais son esprit est tout à fait ailleurs. Elle dit d'ailleurs, dans son livre aussi, qu'elle n'a pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Quand on est dans cet état, en fait... Notre façon de fonctionner, la façon de notre cerveau de fonctionner est très différente et on ne retient pas les choses. Donc effectivement, une terreur sans nom, pas de souvenir. Elle dit « j'étais spectatrice ». Ça, c'est ce qu'on appelle de la dépersonnalisation. Elle n'a plus l'impression d'être elle-même, c'est un petit peu comme si elle était un robot. Elle assiste à ça sans vraiment être dans la scène. Elle dit aussi, c'était tellement irréel. Ça, c'est ce qu'on appelle de la déréalisation. La réalité ne nous semble pas tout à fait vraie.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Hein?
J'ai très peur.
Mais non. T'as absolument rien à craindre. Je suis là. Il va rien t'arriver.
T'en es sûr?
Ouais.
J'ai téléphoné, le décrochait pas, etc. J'ai fait tout de même l'interview de Clark Olofsson.
On avait un super premier ministre, Olof Palme, avec qui j'ai parlé plusieurs fois par la suite. Il n'aurait jamais pris aucun risque. Imaginez seulement, on était en 1973. Il y avait des prises d'otages partout dans le monde. Et les mentalités des Suédois, c'était qu'il ne fallait pas tuer. Mais, trois semaines plus tard, il y avait une élection. Et là, ça coinçait. Parce que s'ils nous laissaient partir, ils perdaient les élections.
Il me dit, mais Kiki, mais on discute encore ensemble. On a passé le Noël dernier ensemble. Attends, je l'appelle. Je lui dis, je voudrais pas non plus que... Donc, il lui a passé un coup de fil. Et puis, donc, finalement, elle a accepté de me parler. Elle est conseillère familiale maintenant. Elle fait de la psychologie. Presque, elle pourrait parler de bons temps ou de bons moments passés. Et dans une forme de traumatisme très important qu'elle-même n'arrive pas forcément à digérer, les larmes coulent. Et quelque chose est resté en elle et elle a du mal à expliquer pourquoi elle a encore cet attachement vis-à-vis de ça.
J'en peux plus d'être ici.
Hein?
Et je n'ai pas envie de mourir.
Tu vas pas mourir, d'accord, ma chérie. Tu sais que je t'aime.
J'ai envie de savoir.
En fait, il a complètement effacé les réalités du syndrome de Stockholm. Il faut savoir que c'est une sorte de tsunami qui arrive dans le cerveau, qui rase tout ce qu'il peut y avoir. Donc on se retrouve globalement avec un encéphalogramme à zéro. Et il faut reconstruire là-dessus une réalité.
Opération de carottage, un coup de feu a été tiré depuis la chambre forte à travers un des orifices. Un de nos agents a été touché.
En fait, ça arrive régulièrement dans ces situations-là et même dans la vie de tous les jours. Il y a une différence entre ce qui avait été écrit, prévu, anticipé, envisagé par les terroristes, les preneurs d'otages ou les gens qui avaient envie de procéder à une rétention ou une privation de liberté de certaines personnes et ce qui se passe en réalité durant cet acte-là.
David Corona, ancien négociateur du GIGN.
Vous allez avoir des gens qui vont un peu jouer les héros, et puis il y en a d'autres qui vont être très coopérants, et puis il y en a d'autres qui vont au contraire aller au-delà de ça et se rallier à la cause des preneurs d'otages. On voit tout un tas de typologies de fonctionnement, et c'est lié à plusieurs facteurs. Quel est le profil de personnalité des ravisseurs? Quel est le profil de personnalité des gens qui sont pris là? Et comment l'extérieur, la pression potentiellement médiatique ou le blackout, le silence total d'information vient ébranler en plus tout ça?
À cause du transistor que détient Hausson, la police maintenant se tait et regrette que les bandits aient pu suivre, sans qu'elle le sache, la préparation des différentes tentatives qui ont toutes échoué pour faire sortir les otages.
Donc on se raccroche à celui qui va pouvoir nous donner à manger, nous dire quand aller aux toilettes, s'occuper de notre vie, s'occuper de notre bien-être. Et donc c'est le preneur d'otages. Et la personne extérieure, là en l'occurrence c'est la police, devient l'ennemi puisque le preneur d'otages dit « attention, ils sont dangereux ».
Le chef de la police a consulté ses collègues du FBI, de Scotland Yard et croit-on aussi de la brigade anti-gang française. Un nouveau plan aurait été mis au point en secret dans la nuit mais on n'en sait pas plus.
Donc dans un premier temps, bien sûr, les otages sont vus comme des monstres. Christine le dit d'ailleurs, hein, quand elle parle de l'arrivée d'Olofsson dans son bouquin, elle dit, bon, deux, ça va être trop pour moi.
C'est tellement difficile à expliquer ce qui se passe quand on met des gens dans une telle situation. Le cerveau est en blackout total. Rien n'est plus pareil. On réfléchit autrement.
Et les preneurs d'otages voient aussi les otages comme des monnaies d'échange, c'est-à-dire qu'elles sont aussi déshumanisées, des monnaies d'échange ou des monnaies de protection, enfin des boucliers de protection. Et puis en fait, ils vont être dans une situation confinés ensemble et ils vont se découvrir mutuellement. Donc en fait, ils vont découvrir qu'ils ont cette humanité. Et c'est ce que Christine dit aussi après, quoi, c'est qu'elle s'est beaucoup battue parce qu'elle a dû beaucoup se justifier. On ne comprenait pas qu'elle puisse s'entendre avec un truand, parce que les personnes du grand public continuaient à voir Olofsson et Olofsson comme des truands.
Il faut savoir que cette photo a été prise aussi vers la fin, au moment où la police menaçait d'envoyer des gaz extrêmement puissants. On voit agrippé d'ailleurs à le haut de tiroir des cordelettes qui voulaient passer autour du cou des otages. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient prêts pratiquement à sacrifier les otages, même s'ils disaient non mais c'est juste une menace, etc. Mais ça aurait pu très mal se passer. Et du coup, il y avait toute une forme de terreur et tout le monde était plus ou moins recroquevillé sur soi-même. Et ce qui fait la force de cette seule photo qui existe.
Toute la Suède est tenue en haleine par ce suspense dramatique. Le centre de Stockholm ressemble à un camp retranché. Le dispositif policier est imposant face à la vitrine de cette banque vénérable, la plus ancienne de la capitale. Un cordon tient les Suédois à distance. Les journaux, qui consacrent 10 pages en moyenne à cette affaire, s'arrachent. La radio, la télévision font presque de l'information continue.
Quelqu'un a dit « Et si on appelait Olof Palme ?» Et j'ai dit « Ok, je le fais ». Je ne sais même pas pourquoi, mais je pensais que c'était une bonne idée. Je viens du nord de la Suède, je votais pour son parti. Et peut-être qu'il allait répondre.
Hallå.
Hallå, ja.
Ja, det här var Kristin Enmark. Hej. Det är den som sitter som gisslan här i kreditbanken bland annat.
Ja.
Jag vet inte om du har hört vad hon har sagt i radio om dig.
Clark et le braqueur ne nous ont fait aucun mal à aucun moment.
Dans ce cas, pourquoi ont-ils des armes à feu?
Eh bien, ils pensent peut-être qu'ils vont en avoir besoin pour se défendre contre la police.
Je vais vous demander de bien réfléchir à la situation. Ces hommes sont entrés dans une banque pour la braquer.
Toutes les lignes étaient ouvertes, ils avaient un téléphone, donc ils pouvaient communiquer avec l'extérieur et notamment avec la radio. Donc il y a eu un très 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 grand nombre d'appels radio qui ont été faits, donc les journalistes se sont régalés avec ça.
Les rapports des journalistes avec la police suédoise ont été excellents pendant 6 jours. La police d'ailleurs avait bien fait les choses, elle nous avait aménagé un endroit d'où l'on pouvait strictement voir tout ce qui se passait. Ils nous ont permis d'approcher à 2 mètres de l'entrée de la banque, de façon à ce que l'on puisse bien voir les choses. D'ailleurs ils ont prévenu la télévision suédoise, ils ont dit attention, branchez vos caméras, soyez prêts, nous allons y aller, si bien que tout a pu être transmis en direct à la radio et la télévision.
D'autre part, les familles ont pu effectivement appeler leurs parents, etc. Pas très souvent, mais ils ont pu le faire. Et effectivement, on avait aussi, donc ouais, c'est la Suède aussi, mais accès direct au Premier ministre. Christine a appelé le Premier ministre en direct. On lui a passé au standard, on entend tout, et tout ça a été enregistré, donc c'est formidable, parce que les enregistrements sont disponibles, ça donne une couleur extraordinaire, d'ailleurs, à un peu au film, puisque tout est en, on a l'impression que tout est, c'est une fiction, pratiquement. Hein.
Vous allez pouvoir écouter un document exceptionnel que nous transmet notre envoyé spécial Didier Leca. Des enregistrements de conversations téléphoniques avant que le bandit ne soit dans la chambre forte. Voici d'abord l'une des otages, une jeune fille, qui téléphonait à un journaliste.
La jeune fille dialogue avec un journaliste de la radio suédoise par téléphone. Elle parle, m'a-t-on dit, un suédois tout à fait approximatif, presque de l'argot. En fond, vous allez l'entendre, c'est le gangster, celui de 32 ans, qui vraisemblablement lui souffle ce qu'elle doit dire. Le journaliste lui demande comment elle va.
Et puis voici maintenant un enregistrement de la voix du gangster dans une conversation avec la police. Et là encore, Didier Leca commente.
Clark Oulousma, c'est son nom, et le second bandit, il a appelé de lui-même la radio. Écoutez sa voix. Je ne suis pas un bandit, dit-il, si vous décidez, vous, les forces de police, de descendre dans la salle des coffres et de prendre la banque par la force, je veux m'en aller et retourner en prison. Tout cela est terrible.
À un moment, ses parents lui téléphonent, alors qu'elle est confinée, et sa mère lui fait des remontrances parce qu'elle s'est exprimée donc avec le Hall of Palm et avec la presse. Et donc, dans ses communications, Christine a parlé des mecs en parlant des policiers. Et donc, sa maman va lui faire une remontrance en disant qu'on ne parle pas comme ça. Et son père va faire de l'humour en disant qu'elle va jouer au poker parce que, évidemment, dans une banque, il y a beaucoup d'argent. Donc, ses parents, même à distance, ne sont pas très sécurisants. Les réponses du Premier ministre Olof Palme ne sont pas sécurisantes. La police ne va pas avoir une attitude qui va mettre les otages en sécurité.
Maintenant, on rigole plus !
Les policiers ont essayé de négocier à la fois avec le ravisseur et avec Clark Olofsson pendant 6 jours sans succès. La police et Palmeux veulent dérouler leur plan jusqu'au bout. Je cite, « Nous vivons dans un état de droit, nous ne cédons jamais nos criminels. »
C'est la Suède, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de braquage. La criminalité est très basse. La police, c'est une nouveauté absolue, une prise d'otage. Donc il y a un amateurisme absolument faramineux. On se demande d'ailleurs effectivement comment ils ont pu être aussi désordonnés. Ils n'ont pas de police qui soit vraiment préparée à ce type d'action. Du coup, tout est fait à la va-vite et dans un amateurisme qui est presque séduisant tellement c'est irréel.
Je veux les gazer.
Oui.
Ça risque pas de les tuer?
Si, ça les tuera sans doute.
Ah, ça va les tuer, je pense. Mais c'est pas ça qu'on veut, justement.
Pardon?
On veut les tuer. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes?
Je vois leur faire peur.
Non, mais c'est... Mais t'as compris, cette fois?
Oui, j'ai compris ce qu'il a dit.
On remarque aussi que la police a mis les otages en danger en fermant de l'extérieur les coffres, en forant le plafond et donc avec des gros blocs de béton qui pouvaient tomber sur la tête des otages. Et ces gaz, qui sont aussi des gaz mortels, normalement, c'était dans les 15 minutes qu'ils devaient être libérés. Si les ravisseurs étaient sortis en dernier lieu, ils auraient été abattus par la police. Et donc, le but des otages, c'est de finalement protéger aussi la personne qui les a protégés. Donc, en sortant les premiers, avec les otages derrière, il était évident que la police n'allait pas tirer sur les braqueurs.
Je ne pouvais plus respirer. J'ai vu les otages et Clark au sol en train de crier. On se rend, arrêtez, on se rend.
Il semblerait que Clark Olofsson s'en soit sorti comme un chef.
Un autre otage est en train de sortir. Il est sur un brancard.
On va vous suivre.
Bref, voilà.
Les images qui sont diffusées en ce moment à travers le pays sont impressionnantes. Et tout ça grâce à un homme.
21h30, le commissaire principal Sven Torander sort en courant et crie aux 300 journalistes massés sur la place et aux abords de la banque, ça y est, ils sont vivants, c'est fini, ils ont capitulé.
Nous allons essayer de vous montrer des images de Clark Olofsson qui sous la clameur assourdissante de la foule.
Grâce à moi, ce pleurnichard de Janus était rendu. J'avais accompli mon devoir. Les otages étaient sains et saufs. personne n'était mort.
Les locaux de la banque, véritable camp retranché aujourd'hui après un siège de 7 jours, à l'air d'un champ de bataille. La Crédit Bancaine n'ouvrira ses portes sans doute au public que dans 2 ou 3 semaines. Bon. Voilà, en moins d'une heure, le crime l'a montré qu'il ne payait pas.
Ah oui, alors ça c'est vraiment, c'est brillantissime.
C'est une morale facile peut-être, mais qui en Suède, on l'espère, fera certainement des adeptes.
Parce que finalement, il est là au milieu de tout cet argent, ils savent pas quoi en faire. Donc lui fait des enveloppes, les met dans la boîte envoi de la banque, en se disant, bon, on verra bien. Il met des adresses de copains, des adresses d'avocats, etc. Il en garde un petit peu sur lui, qui cache on sait où. Et il se dit, bah, ça marchera peut-être pas. Et finalement, bah, ça a fonctionné. Et il s'est fait, bon, il m'a dit 6-0. Donc ça veut dire qu'il s'est fait, c'est de l'ordre du million. Donc la banque, une fois qu'elle a repris possession des locaux, s'est dit, eh ben, on est en retard sur tout, envoyez le courrier. Donc ils n'ont pas vérifié et il y avait des billets partout.
Quelques jours après la fin du braquage, le négociateur en chef, le psychiatre Nils Bejero, sans jamais avoir discuté avec Christine, explique au monde entier pourquoi elle a agi comme elle l'a fait. La cause de son comportement irrationnel, dit-il, est un syndrome psychiatrique qu'il appelle syndrome de Norrmalmstorg. C'est difficile pour nous de dire ce terme-là, et Stockholm était finalement plus facile. Quand une personne normale est kidnappée par un criminel qui a le pouvoir de la tuer, en quelques heures, l'otage a une sorte de régression vers des émotions infantiles. On se rend compte que le syndrome de Stockholm, c'est pas ce à quoi on l'a réduit, une espèce de portion congrue et en plus fausse, qui dit des otages tombent amoureux ou amoureuses de leur geôlier. C'est un peu court.
Je ne sais pas si cette situation, elle est essentiellement et uniquement due au phénomène du syndrome de Stockholm. Je pense qu'elle raconte encore autre chose sur le profil de personnalité de cette fille-là.
Les gens ne peuvent pas comprendre ça et je leur dis, tu ne peux pas, tu n'y étais pas. Je l'aime à ma façon. Je ne suis pas amoureuse, mais je l'aime. Il m'a sauvée.
Aujourd'hui, cette dame, elle vivrait ça en, je vais dire une bêtise, mais en 4-5 séances de MDR, elle n'en parlerait plus, elle se serait construite autrement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est devenu un bâton pour elle qui lui permet de se raconter une histoire cohérente. C'est quasiment un doudou, en fait. Et il y aurait plus de problèmes à essayer de lui enlever. D'ailleurs, elle n'a pas du tout envie de se priver de ça, plutôt que de lui laisser de finir sa vie en se racontant ça d'elle.
Som kärleken ger blå, blå i himmelen. Inte ett moln på himlen jag ser.
Le syndrome de Stockholm, la fin d'un mythe, avec Olivier Pighetti, réalisateur du documentaire Quand Stockholm est devenu un syndrome. David Corona, ancien négociateur du GIGN. La psychologue clinicienne Evelyn Joss. Extrait du documentaire de Lydia Pighetti et de la série Netflix Clark. Une histoire particulière, coordination Emmanuel Laurentin, attaché de programme Sandrine Chaperon, prise de son Nicolas Bonnet et Pierre Henry, mixage Eric Boisset, réalisation Félix Levachet, un documentaire de Michel Pomarade.
Blå, blå, Havets sol.